Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque semaine pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Ravéli Lemel. Bonjour Ravéli Lemel, bonsoir à vous, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. On avance dans notre survol de la Parasha, le passage que nous lisons dans nos communautés chaque vendredi. Et donc, on est là à Acharemot Kedushim. Alors ce soir, Ravéli Lemel, vous voulez parler d'un sujet qui est central, essentiel dans la Torah, c'est le refus d'idolâtrie, avec un point bien particulier pour vous ce soir, c'est ce qu'on appelle le molaire. Alors, de quoi s'agit-il ?
Exact. Alors, on a dans la parasha, enfin, il y a deux parashas cette semaine, on a dans la parasha un moment, un verset qui est quand même assez surprenant. Puisque la Torah, en effet, va nous enjoindre de faire très attention à ne pas nous tourner vers une divinité de l'époque, d'accord, qui s'appelle le molaire, le moloch, certains diraient. Et donc, a priori, il y a plusieurs questions qui se posent. Tout d'abord, la première question, c'est la Torah nous demande de ne pas nous tourner vers l'idolâtrie, on essaie de comprendre ce que ça veut dire. Bon, mais alors très bien. Alors on n'a pas le droit d'aller vers les idoles, quel que soit leur nom, quel que soit le culte. La Torah nous relate qu'à un moment, les enfants d'Israël dans le désert se sont tournés vers une idole, vers le Baal Peor. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'accentuer ici cet interdit par rapport au molaire ? D'accord ? Qu'est-ce qu'elle a de spécial ? Et puis surtout, on a vraiment ici un texte dans lequel on nous dit attention, hein, vraiment, faut vraiment pas y aller, quoi. C'est-à-dire, et là-bas, on nous parle bien sûr de ce qui se passe dans ce molaire. Et ce molaire, eh bien, c'est le moment dans lequel on amène des enfants vers cette idole. Le verset nous dit la chose suivante: Vani etenet panai baishaou. Le texte nous dit et moi, je tournerai ma face vers cette personne. Virati oto. Et je le détruirai, Miker Evamo, il disparaîtra de son peuple. Kimizaro Natana Moler, car il a amené de sa descendance vers le Moler. Il a rendu impur mon sanctuaire, il a méprisé, il a profané mon enceint. Et le texte continue. Et si les gens ferment les yeux sur la conduite de cet homme qui aurait donné sa postérité au Moler et ne le fait pas mourir, alors c'est moi qui retrancherai tout le monde. C'est fou. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier là-dedans ? Alors, le molaire, quand on regarde le texte, eh bien, le molaire, c'était au fond une idolâtrie, une idole, un culte dans laquelle, eh bien, on offrait ses enfants, on les faisait passer à travers des feux, et suivant les versions, on les jetait dedans, enfin, on sacrifiait ses enfants, quoi. Alors, on connaît les sacrifices d'enfants. Un cas, hein, c'est qu'on a retrouvé des lieux dans lesquels il y avait manifestement des sacrifices d'enfants. Et la Torah nous dit attention, ça c'est pas possible. Avec, comme vous voyez dans ces versets, quelque chose de lourd, de fort. On a l'impression que c'est la pire des choses qui puissent exister. Alors, il y a deux questions qui se posent. La première, c'est évidemment, mais au fond, est-ce qu'on peut imaginer que c'est vers ça qu'on aurait envie de se tourner ? C'est-à-dire, la Torah me dit, attention, il y a un truc, c'est très, très grave, très, très grave. Alors, si on nous dit que c'est sans doute très, très grave, très, très grave, c'est que sans doute, on aurait peut-être bien envie d'y aller, et on insiste très fortement pour surtout qu'on n'y aille pas. Mais là, entre vous et moi, avoir envie d'aller vers une idolâtrie de ce type, c'est moyen, quoi. On ne se sent pas trop d'imaginer, comme ça, un mouvement de masse, tellement de personnes qui vont aller vers le molaire, prendre les enfants dans le feu, etc. C'est... Ouais. À moins d'être devenus tous fous, enfin les bouffées délirantes, n'est-ce pas, qu'on connaît aujourd'hui. C'est impossible. Et puis, au-delà de ça, on sait que chaque fois qu'on voit un enseignement dans la Torah, on doit s'interroger. Et pour moi, ça veut dire quoi dans ma propre réalité ? Vous savez, c'est comme quand on parle du sanctuaire, du temple de Jérusalem, ça veut dire quoi ? Et on a travaillé un moment sur le Beth Amikdash, on a fait bien sûr ce parallèle avec le Mikdash Mehat, le petit sanctuaire, notre propre vie, notre propre couple, notre propre famille. Et là, de quoi il s'agit? Est-ce qu'on peut imaginer un lien avec nous? Alors, on va essayer de réfléchir tout d'abord, qu'est-ce qui se passe derrière cette problématique de la Avodah Zarah? Au fond, pourquoi est-ce que la Torah donne un tel interdit face à la Avodah Zarah? Le Rambam Maïmonide nous explique et nous dit que la Avodah Zarah, l'idolâtrie, elle a commencé comment? Ben d'abord par le fait que l'on était croyant dans un Dieu unique. C'est-à-dire, Rambam dit clairement, ne vous imaginez pas que cette idée de Dieu unique n'existait pas dans la tête et dans l'esprit des gens. Le propre d'Abraham, c'est de l'avoir découvert à travers son propre cheminement et surtout de l'avoir répandu. Mais les gens, au fond, cette idée-là ne leur était pas étrangère. Seulement, dit Maïmonide, au bout d'un moment, appréhender cette dimension qui nous dépasse radicalement n'est pas simple. Parce qu'un Dieu créateur, c'est quelque chose qui nous dépasse totalement. Et les individus ont commencé à se dire, bien, au fond, pour créer le lien avec le créateur, on va se tourner vers sa création. Et donc, eh bien, en se tournant vers le soleil, vers la lune, on crée le contact avec celui qui en est à l'origine. Et au début, eh bien, se tourner vers les astres, se tourner vers différents éléments présents dans l'univers, c'était au fond se connecter au Créateur via ce qu'il avait créé. Mais c'était quelque chose qui était plus ou moins à notre portée. Mais dit le Rambam, dit Maïmonide, au bout d'un moment, eh bien, ce qui était un moyen d'accéder à cette conscience du divin, eh bien, est devenu une finalité. Et il y a eu donc rupture, parce que ce qui était moyen est devenu but. On servait l'idole, le soleil pour le soleil. On servait la lune pour la lune. On servait les arbres pour l'arbre. Ils représentaient quelque chose en tant que tel. Et à ce moment-là, eh bien, évidemment, cette idée qu'il y a une puissance qui est à l'origine de tout, que l'on appelle Hachem, Dieu le Créateur, s'est écartée de leur esprit. Et l'être humain s'est tourné donc vers toutes ces énergies, vers toutes ces forces présentes dans le monde et leur a donné une force et un pouvoir en tant que tel. Et donc la Avodah Zarah, c'est quoi au fond? C'est un moment de se dire, eh bien, il y a dans le monde, il y a dans l'univers toutes sortes de forces, toutes sortes d'énergies. On va se tourner vers elles. Et on va leur demander, au fond, de nous donner ce dont on a besoin, ce que l'on désire. Et que ça soit la pluie, que ça soit la réussite, que ce soit ce que vous voulez. Et tous les systèmes d'idolâtrie vont se mettre en place. Donc quand on se tourne vers une idole, c'est essentiellement parce qu'on attend quelque chose. On voudrait qu'il y ait une réponse par rapport à une demande, par rapport à un besoin qui nous concerne. Nous avons besoin de quelque chose pour nous, au niveau individuel ou collectif. Donc nous nous tournons vers ces forces pour leur demander de nous donner ce dont on a besoin. Et après rentrent tous ces systèmes dans lesquels on nous amène des offrandes comme une forme de cadeau pour obtenir les faveurs de ces divinités. Ça, c'est un petit peu, au fond, ce qui se joue derrière cela. Le molaire, c'est quoi? C'est aussi une idole. Mais l'enfant, c'est quoi? C'est quoi un enfant, au fond? Un enfant, c'est notre futur. Et au fond, au niveau du concept ici, on est en train de découvrir que le molaire, c'est nous dire, eh bien, si tu veux avoir un présent, sacrifie ton futur. Si tu veux recevoir quelque chose pour toi ici à l'instant T, eh bien, il va falloir que tu sacrifies ce futur qui est symbolisé par l'enfant. Sacrifier son futur pour mieux vivre son présent. Et là, il y a quelque chose peut-être qui nous parle et peut-être qui nous concerne, peut-être bien plus que ce qu'on pourrait s'imaginer. On est tous dans un quotidien dans lequel, eh bien, on attend qu'il se passe le mieux possible, que notre présent se conjugue au plus que parfait, c'est le désir de tout à chacun. Et évidemment, ceux qui peuvent perturber ce quotidien sont paradoxalement nos enfants. Pourquoi? Parce que si nous avons envie de les faire grandir dans un univers dans lequel les valeurs de la Torah sont importantes, eh bien, nous allons devoir à un moment nous battre. Oui, j'utilise ce terme, c'est-à-dire travailler pour que la relation qu'ils ont, ne serait-ce qu'aux nouvelles technologies, soit saine, les amener à prendre conscience de l'exigence que créent la Torah et les mitzvot dans leur vie, faire des bénédictions, manger kasher, ne pas tout faire et n'importe comment, ne pas aller n'importe où, certaines choses que l'on ne va pas voir, etc., etc. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande un renoncement. Au-delà de ça, si nous pensons l'enfant non pas comme étant une chose qui est à notre service pour notre bien-être, mais beaucoup plus comme un potentiel que nous pouvons faire émerger, eh bien, on va peut-être réfléchir au fait qu'on ne décide pas que j'en ai un, deux ou trois et ça me suffit. Les enfants, bien sûr, ce n'est pas un concours, mais si on peut donner la vie, au fond, pourquoi on ne veut pas la donner ? Alors, parfois, il y a de bonnes raisons, hein, pourquoi pas, mais évidemment, si vous investissez par rapport à cela, eh bien, votre présent ne sera plus plus que parfait tel qu'on voudrait l'imaginer, c'est-à-dire avec une certaine forme de quiétude, de sérénité, de calme, de vacances, de Venise, de ce que vous voulez. Parce que tout simplement, eh bien, le soir, on va devoir vraiment s'investir, parce que passer Shabbat avec eux, parce que s'occuper d'eux le dimanche, parce que faire des choses avec eux, parce que se battre et leur donner les moyens de se battre par rapport à ce qu'une société qui est autour de nous et qui est qu'on le veuille ou pas à un moment plus tellement en phase avec ce que la Torah nous propose, eh bien, ça demande des efforts. Et peut-être que sacrifier son futur pour bien vivre son présent pourrait à ce moment-là nous concerner. Vous savez, ces attitudes pseudo-éducatives dans lesquelles on dit, au fond, il faut bien que jeunesse passe, laisse-le, il comprendra tout seul, de toute façon, il faut bien qu'il passe par là, ça va, c'est pas si grave. Oui, alors, les réseaux sociaux, ben, tout le monde y est. Bon, d'accord, on va un peu gérer, mais pas trop. Donc, pourquoi ? Parce que vous imaginez un petit peu, mon quotidien ne sera plus le même, je ne pourrai plus m'occuper de moi comme je le désire, sortir comme je le veux et faire des choses qui m'intéressent. Parce que, ouais, oui, il y aura un investissement réel. Il m'arrive souvent de dire aux parents, vous savez, il vaut mieux ne pas dormir pendant les 15 premières années de leur vie à ses enfants pour pouvoir dormir de manière plus sereine par la suite, si tant est que votre projet soit de les inscrire dans une vie dans laquelle la Torah et les mitzvot, eh bien, sont fondamentaux. Et peut-être que là, on comprend mieux alors qu'est-ce que le texte est en train de nous dire. Entre autres, évidemment, ce n'est pas la seule lecture. La Torah nous dit attention, parmi toutes les Avodah Zara, eh bien, n'oublie pas que, ne confonds pas la finalité et les moyens. Tu n'es pas toi-même la finalité de ta propre histoire. Nous sommes les vecteurs d'un projet. Et parce que tu es vecteur, tu n'en es pas sa finalité. Et donc, dans ce cas-là, tu dois te voir dans ce projet et comprendre que oui, quand tu as un enfant, quand tu en as deux, quand tu en as trois, quand tu en as quatre, tu portes la vie, tu amènes une âme dans le monde. Et ce temps que tu vas passer, que tu vas utiliser, non point pour toi personnellement, mais d'abord pour faire en telle sorte que ce futur se conjugue le mieux possible, en leur donnant toutes ces valeurs, en te battant pour être dans une réelle présence, en te battant pour pouvoir en effet leur permettre de construire une vie de juif telle que la Torah le propose, eh bien tout ça, ça va en effet être quelque chose qui n'est pas si simple. Le molaire, peut-être d'aujourd'hui, ça serait au fond ces choix que l'on fait de non-investissement parce que tout simplement, nous n'avons pas envie de nous gâcher notre présent, même si au fond, on sacrifie le futur des enfants juifs qui ne doivent pas être juifs que par le nom ou que par le doigt que l'on pointera sur eux, mais par le fait qu'ils transportent au plus profond d'eux-mêmes une identité forte qui passe évidemment à travers cette capacité d'être à l'écoute du message de la Torah et des Mitzvot et de savoir les retraduire dans leur réalité quotidienne.
On va beaucoup réfléchir à ce que vous venez de nous dire, Avedi Lemel, surtout essayer de le mettre en œuvre. On peut d'ailleurs, par exemple, commencer ce soir à la table de Shabbat, essayer de ne pas être un idolâtre sans le savoir. Et je vous remercie pour cette belle dracha. Merci à vous et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
On retrouve à présent Rav Mordechai Biton qui est à Jérusalem. Bonsoir, Shabbat Shalom.
Bonsoir, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Rav Mordechai.
Bonne santé à nous Amen. Tous. Bonne santé à Amen. Tout, à Israël et à tous les terriens. Bonne santé à tous les terriens.
Alors moi, je vais en dire une autre, que tous les gens ici en France arrivent, comme en Israël, à enlever le masque. Ça serait...
Les
Israéliens sont vraiment la lueur du monde en ce moment. Tout le monde les regarde. Si on pouvait enlever le masque, on adorerait. Allez, on continue de réfléchir sur notre paracha de cette semaine. Et la deuxième, puisqu'on en lit deux, c'est Kedushim, soyez saints. Et vous vous posez une question. Vous dites, mais être saint, c'est quand même quelque chose d'être extrêmement élevé. On ne donne pas ça à tout. Enfin, je veux dire... nous, on peut pas nous demander un truc aussi élevé. On est journaliste, on est commerçant, on est chauffeur de bus, ou j'en sais rien, journaliste. C'est pas à moi qu'on va me demander d'être sain, on va me demander d'être juste, c'est déjà pas mal, d'être à peu près normal, mais pas sain. Alors pourquoi on me demande une chose pareille ?
Effectivement, c'est une vaste question qui a été traitée par la Gemara et puis qui fait l'objet aussi d'une exclamation, on va dire, particulière de la part des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. En fait, nos textes nous enseignent que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'ils arrivaient chaque année à la lecture de la parasha Kedoshim Tiyu, la parasha Acharibot Kedoshim, et laquelle parasha disait, voilà, Hachem donne un ordre à l'ensemble du peuple juif, soyez saints, ils étaient heureux. Pourquoi ? Parce qu'ils réalisaient que la sainteté, ça n'était pas que pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Eux aussi allaient pouvoir y accéder. Quand la Torah nous dit à toutes et à tous, soyez saints, c'est qu'elle nous dit, de la même manière que je vous ordonne de ne pas manger tel ou tel aliment, ou de faire le Shabbat, ou de manger de la matzah pessar, je vous ordonne d'être saints. Alors déjà, ça va nous guérir de cette peur qu'on peut avoir quand on parle de la sainteté. On ne parle pas ici de quelque chose de pratiquement, de concrètement élevé. Élevé au sens où on l'entend quand on parle des grands saints du peuple juif, Baba Salé par exemple, qui était un homme connu pour sa très grande sainteté, et que le concept de sainteté nous renvoie à l'image de l'archétype de la sainteté qui pourrait être Baba Salé ou Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors de quoi s'agit-il ? Quand on lit Rashi, qu'on lit le Ramban, on comprend un peu de quoi il s'agit. Rashi dit, partout où on va trouver des barrières face à la débauche, on trouve la sainteté. Alors ça s'entend, effectivement, parce qu'il y a dans l'attirance pour la débauche, l'attirance pour des pulsions, pour un monde pulsionnel, pour finalement vivre finalement en accord avec ces pulsions, sans chercher à aller plus loin, sans chercher à s'élever, sans chercher à canaliser. Et donc, on comprend ici que là aussi, il y a une exigence qui peut être donnée à tout le monde. C'est-à-dire, utilisez vos pulsions, mais sachez les orienter vers des buts constructifs, sachez organiser vos pulsions autour donc d'activités constructrices, autour d'activités positives, et que ce soit dans un couple, dans son intimité, dans le fait de manger, dans le fait de boire, dans le fait de profiter du monde, soyez constructifs. Maintenant, le Ramban d'Armanide, il va plus loin. Il dit, la sainteté, tu la trouves déjà dans le fait d'être capable d'établir une distance avec ce qui t'est permis. C'est-à-dire que tu manges, mais tu ne vas pas manger comme un glouton. Tu peux avoir des relations conjugales, mais tu ne vas pas faire ça de manière pulsionnelle, compulsive ou autre, etc. Tu peux dormir, mais tu vas calculer tes heures de sommeil, comme le propose Maïmonide, le Rambam, en disant que c'est bien de dormir maximum 8 heures et peut-être même un peu moins pour ceux qui le peuvent. Bref, tu vas gérer. Donc en vérité, cette exigence de la sainteté, si on regarde bien, c'est quelque chose qui nous concerne tous, c'est-à-dire qui concerne chacun des domaines de notre vie et qui nous demande en fait quoi ? Qu'est-ce que c'est finalement la Kedusha ? Dans la Torah, la notion de Kedusha, elle ne fait pas appel à la notion de sainteté. En fait, c'est une traduction, mais comme toujours, la traduction joue un tour terrible à la Torah. Ah, comme disaient les sages dans Maseret Sofrim, malheur au jour où la Torah a été traduite en grec. Bah, la traduction des Septante, quelques 283 années avant notre ère, parce que ce jour-là, ils nous disent le lion a perdu ses dents, la reine a perdu son statut. Pourquoi ? Parce que le mot « kadosh » dans la Torah, il ne signifie pas « saint ». Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de mot comme ça, il n'y a pas d'exigence de ce genre dans la Torah. « Kadosh », ça veut dire « séparé ». Et lorsque, par exemple, on nous dit qu'il n'y aura pas de femme ou d'homme livré à la débauche, on dit « loyé kadesh au kedesha ». C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de gens qui sont prêts à se livrer à la débauche, on les appelle « kadesh », « kedesha », c'est la racine « kadosh ». Et la même chose, quand on demande d'être élevé, on nous dit « kedoshim tiyu ». Donc ça veut dire quoi « kadosh » ?« Kadosh », ça veut dire « être séparé ». On peut être séparé vers le bas par la débauche, la prostitution, ou on peut être séparé vers le haut en ayant une certaine distance avec ses pulsions, un certain recul sur ses pulsions. En fait, c'est ce qui nous est demandé, c'est d'être séparé. Alors, séparé de quoi ? Séparé de la structure qui existe en eux, qui s'appelle le monde pulsionnel. Ce qu'on appelle le nefesh abehemi, ce qu'on appelle dans la littérature chassidique le nefesh abehemi, l'âme animale qui est en nous. En français, on appelle ça le monde pulsionnel. Ne jamais être complètement, ou même totalement d'ailleurs, prisonnier de ses pulsions. Apprendre à les orienter dans des buts constructifs. Alors, à ce sujet-là, par exemple, faire des brachot avant de manger. On l'a déjà dit plusieurs fois dans cette émission, c'est là le lieu de le répéter. Brachot, par exemple, la bracha, c'est les mêmes lettres, la bénédiction, c'est les lettres que Bechor, le premier-né. C'est-à-dire que quand j'ai en face de moi un bon gâteau ou un bon plat, la première de mes pulsions, qui est de manger, je vais d'abord la mettre un petit peu en retrait, et je vais d'abord donner une première pulsion à Hachem, qui est de dire, toi tu es la source de toute bénédiction, c'est grâce à toi que je peux manger, donc ce qui est ici, je te remercie pour ça. Donc j'établis une distance entre le besoin et la satisfaction du besoin, entre la nécessité et la satisfaction de la nécessité. En fait, je ne suis pas victime du besoin ou de la nécessité. J'essaye, en quelque sorte, d'être un acteur. Je ne suis pas emmené, je ne suis pas tiré. J'essaye de faire en sorte que ça soit quelque chose dont je sois un petit peu l'acteur. Alors, cette idée, elle va très très loin, parce que cette idée, elle permet à la fois de réguler l'être juif, mais elle permet de réguler également la maison. À la fin de la paracha précédente, on voit que la Torah nous a mis en garde en disant que Hachem demande à Aaron, au Kohanim, etc., d'adresser de montrer des règles très précises sur les règles de pureté et d'impureté à l'ensemble des Bnei Israël. Or, on voit que ces versets qui concernent les règles de pureté et d'impureté s'adressent d'abord principalement aux Kohanim. Les Kohanim étaient des prêtres qui eux-mêmes rentraient dans le Saint des Saints. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de s'adresser à tous les Bnei Israël pour parler de règles de pureté, alors qu'il s'agit de parler en fait aux Kohanim, qui eux, et notamment les plus grands d'entre eux, qui vont rentrer dans le Saint des Saints, le lieu le plus saint du peuple juif, qui était donc le Saint des Saints dans le Temple. Et le Mesher Chochma, qui est un auteur qui vivait il y a environ 200 ans, va expliquer la chose suivante. Il dit « Le Saint des Saints, c'est une figure de la maison juive. Quand un homme et une femme le méritent, alors la Shrina, la présence divine, s'impose entre eux. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la maison devient un lieu dans lequel s'exerce cette éducation-là, finalement, à savoir se retenir, à savoir se gérer. Alors, ce qui est étonnant, vous voyez, c'est que le Stapeler, le père de Raphaël Pianevski, il disait, lui, c'est pas la peine que les femmes écoutent des cours sur le chidour, sur l'éducation. Une femme qui prononce la bénédiction quand elle boit un verre d'eau, tout est réparti à parole, elle le prononce à voix haute dans la maison, ça vaut 1000 cours de chidour. Ça dit très bien les choses, c'est que quand en fait un individu se gère, un père et une mère se gèrent, les enfants aussi ils apprennent à se gérer. Et en fait cette éducation, c'est là qu'elle se fait. Et la maison juive, la maison, c'est la base de cette éducation qui est finalement le message ici que la Torah veut nous donner. Sachez que ce qu'on vous demande ici, ça n'est pas d'être baba salé, on vous demande tout simplement d'apprendre à gérer vos pulsions. Il faut que chacun fasse le travail et que la maison soit un lieu dans lequel on le voit, on le vit, on le respire, et que ça devienne en quelque sorte une seconde nature. Alors une des bonnes manières de le faire, pour donner un conseil pratique à nos auditeurs, c'est de faire ce qu'on appelle des seudat amenim. Quand vous faites avec les enfants, vous réunissez les enfants Shabbat, par exemple, pour le kiddush avant le repas, et puis on va manger des gâteaux. On fait une seuda dans laquelle chacun va faire les brachot à voix haute, et on va tous répondre amen, et on va souhaiter que ça soit pour le mérite d'une femme qui n'a pas d'enfant, ou des gens qui ont des problèmes de santé, et on va prier en même temps pour ces gens-là. Alors on fait un acte ici qui est un acte très fort, parce qu'en fait c'est un acte dans lequel on va tous collectivement se montrer qu'en fait on n'est pas dans la gloutonnerie. On fait attention, voilà, on se gère, et en même temps on fait du bien autour de nous. Et vous voyez, un acte qui est un acte de manger devient un acte sain. On n'est pas baba salé, on est tous ensemble en train de manger des bons gâteaux au chocolat, donc on est des êtres profondément normaux, on est en train de jouir du monde, mais en même temps, on est en train de poser ça dans une perspective où on sait prendre du recul, et on sait au moment où on se satisfait, penser qu'il y a Hachem, penser qu'il y a d'autres personnes, penser à d'autres dimensions que la satisfaction du besoin. Voilà, ça me semble être une règle extraordinaire, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs cette paracha est au cœur du Lévitique, c'est-à-dire de Vaïkra, qui lui-même est au cœur des cinq livres de la Torah. C'est-à-dire qu'on est vraiment ici dans l'épicentre du travail que chacun d'entre nous doit faire, finalement de la mission de l'humain sur Terre, qui est d'apprendre à grandir et à dépasser ses pulsions.
Shabbat Shalom, très belle idée cette idée de faire des seudot comme ça pour les enfants, magnifique, on va essayer d'y penser, j'avais jamais entendu cette très belle idée, et donc voilà. Maîtriser ces pulsions.
Du chocolat,
en plus de ça on se régale.
Chocolat au service de la grandeur, vous rendez compte, du chocolat au service de la grandeur, on va y arriver, je vous dis on va y arriver.
C'est avec des chamallows, hein, moi j'insiste. Merci à vous,
des chamallows.
Rav Mordechai Vitton, à Jérusalem, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Maria Chadret. Bonsoir Maria Chadret.
Bonsoir Bernard, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Mariacha, quand je vous ai demandé tout à l'heure sur quoi vous alliez intervenir, vous m'avez dit, écoute, Bernard, j'imagine que vous en avez parlé toute la semaine, mais moi, ce soir, je ne peux pas faire autre chose que parler de ça. Et vous m'avez dit, bien sûr, on va le lier à la paracha, mais moi, ce soir, je parle de Sarah Halimi.
C'est ça. Ouais. Mmh. C'est un appel intérieur, vraiment. Parce que bien sûr, j'ai lu la paracha, hein, comme chaque semaine, je lis, j'ai lu Kodoshim, la Kedusha, mais moi, c'est Sarah que j'ai lu dedans. Alors voilà, vous savez, la paracha de Kedoshim, c'est une paracha tout en finesse, tout en mesure, la mesure des choses. La Kedusha, c'est être dans la juste mesure des choses, de notre rapport à l'autre, et c'est une paracha extraordinaire. Tout au long, on passe d'une mitzvah à une autre mitzvah, mais toujours des mitzvot qui régulent leur rapport à l'autre. Et vous savez, c'est dans cette paracha qu'il y a le fameux « Ve'ahavta le'reacha kamocha », donc cette obligation d'aimer l'autre, lui qui est comme toi. Alors certains traduisent « tu l'aimeras comme toi », et d'autres disent « non, lui qui est comme toi, alors aime-le ». Et Rabbi Akiva de dire « Zeklal gadol batorah », ça c'est le principe fondamental de la Torah et dans cette paracha. Alors moi je voudrais vous parler de deux versets juxtaposés à ce fameux verset sur lequel Rabbi Akiva met tous les projecteurs, le Ve'ahavta. Il y a deux versets juste avant qui nous concernent grandement. Je suis donc au chapitre 19, verset 15. « Lo ta'asu avel bamishpat » Ne faites pas d'iniquité dans le jugement. Mmh. Et le verset continue. Lotissa pnédal, tu ne dois pas grandir le pauvre et tu ne dois pas veloter d'ar pnégadol, sublimer celui qui est déjà grand, noble. Et insistance encore, betzedek tishpot amitecha, tu dois juger de façon juste. Donc, le premier élément ici. Ensuite, on va voir le verset d'après qui donne des frissons. Le premier élément, c'est cette obligation absolue. La Torah parle ici aux juges, aux dayanim. Et je ne sais pas si parmi vos auditeurs, cher Bernard, il y a le juge d'instruction. J'aurais aimé qu'ils lisent la paracha de Kedoshim. Même si la Torah s'adresse à nous, peuple d'Israël, nous devons d'être une lumière pour les nations. Nous devons de leur montrer un chemin de rectitude. Et j'aimerais qu'ils relisent ces versets et pourquoi pas qu'ils s'imprègnent aussi de ce que Rashi dit. Quand Rashi dit « oui, tu ne peux pas tendre le procès vers le pauvre en te disant « lui est tellement pauvre, je vais lui faire gagner ce procès et puis comme ça, il aura une façon d'avoir une petite parnassa et puis de toute façon, pour la personne qui est très riche en face de lui, ça ne sera pas si grave ». Ni dans un sens, ni dans un autre. Tout le monde a le droit à une justice absolue, à une justice juste, j'ai envie de dire. Et cette justice qui s'impose, alors elle s'impose au Dayan, mais un peu plus loin dans la paracha, le verset est répété encore. Le même verset, très exactement, « Lota suavel bamishpat », mais cette fois-ci, on parle à qui ? On parle à tout le peuple. À tout le peuple et par exemple à des commerçants qui, lorsque dans leur commerce, ils ne sont pas justes, bien là aussi, est écrit, ça enlève la shrina, ça enlève la présence divine. C'est-à-dire que c'est une abomination, Rashi dit, c'est une toeva. Quand la justice n'est pas juste, nous sommes dans une toeva. Il va même rajouter 5 adjectifs, les uns plus importants que les autres, pour parler de l'abomination que c'est que de ne pas rendre justice. Mais je vais m'arrêter sur le verset d'après. Juste après ce verset, comme si cette paracha Kedoshim en pleine affaire Sarah Halimi venait et nous disait regardez, c'est écrit ici et lisez-le avec attention. Le verset juste après nous dit la chose suivante, juste après donc la justice et la droiture dans le Mishpat, dans le jugement, Lota Amod Aldam Re'echa, tu ne pourras pas te. Alors je vais lire littéralement, hein, te tenir à côté du sang de ton ami. Ce qui signifie en français « non-assistance à personne en danger ». « Ne te tiens pas à côté de son sang », dit Rashi, alors c'est terrible, « lirot bemitato », tu vois sa mort, « veata yachol et atzilo », et tu peux le sauver, rappelons-nous du nombre de policiers qui étaient en bas de l'immeuble, et l'exemple qu'il donne, comme « listim baim elav », des brigands qui rentrent dans sa maison. « Listim baim elav », dit Rashi. Donc, et dans cette juxtaposition de ces deux versets, d'avoir une justice absolue, vraie, qu'on a le droit à cette justice, on a le droit d'avoir ce jugement, cette reconstitution, etc. Et juste après, Lota Modal Damrera ne laisse pas une personne mourir. Alors, on ne peut plus sauver Sarah, en tout cas pas dans le monde d'en bas, mais très certainement qu'elle devait avoir une très grande neshama, parce que je pense qu'il y aura, on ne va pas s'arrêter là, ce n'est pas possible. Il y a un appel ce dimanche à une grande manifestation et je ne peux que me joindre. Alors, mon rôle à moi, ce n'est que de lire nos textes sacrés, de les faire parler, de nous améliorer les uns les autres par cette Torah. Mais je me joins, exceptionnellement, je me joins à tous les appels de tous les dirigeants. Je suis loin d'en être une, mais à travers cette lecture de la paracha, je crois que nous n'avons pas d'autre choix que d'être actif et de rappeler au monde entier ce qui est écrit dans la Torah. On a le droit à une justice et on n'a pas le droit de laisser une personne mourir sans venir et l'assister et être à côté. Et aujourd'hui, si on ne peut pas assister Sarah Halimi physiquement dans ce monde-là, eh bien, en tous les cas, ce qu'on peut faire, c'est faire évoluer les choses de telle sorte qu'on ne se sente pas en danger, nous tous, de savoir qu'il peut y avoir de telles abominations, je reprends le terme de Rachid, de telles abominations, de telles folies dans ce monde, sans réagir. Et juste après ce verset, le verset d'après, c'est « Ve'ahavta le'reacha kamocha ». Alors, on connaît ce verset, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », on l'a dit et redit. Eh bien, je crois qu'on peut même accomplir ce verset en étant présent dimanche et en étant présent les uns pour les autres pour que ce genre d'événement aussi terrible ne puisse pas avoir lieu dans ce pays, dans un pays démocratique, dans un pays où nous devrions nous sentir protégés. Et donc, on fera tous « Ve'ahavta le'reacha kamocha ». Je crois que c'est de cette façon-là, cette année, que ça s'impose de le faire.
Alors, je voudrais profiter de votre dracha, Mariacha, pour rappeler une chose dont on a évidemment parlé, mais dire que Sarah Halimi avait créé l'une des premières crèches, et peut-être même la première crèche orthodoxe de Paris. C'était dans le Marais, dans le Pletzel. Donc en plus, c'était vraiment quelqu'un qui, elle avait cette vocation de s'occuper des plus petits, ce qui lui donne, à mon sens, quelque chose d'encore plus touchant. Et il me vient aussi à l'idée, en vous écoutant, que je crois que tout ce que vous nous enseignez tous, les uns les autres, dans cette émission merveilleuse de Kabbalat Shabbat, toujours revient l'idée de responsabilité. On peut demander pardon, on peut dire, on peut s'expliquer, mais on est toujours responsable de ce qu'on a fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est que donc un homme prend volontairement des stupéfiants et on dit, mais non, mais regardez-le, le pauvre, il n'a rien fait, il est sous stupéfiant. Et je crois que c'est là où tout le monde a commencé à se dire qu'il y avait un problème. Et une fois encore, c'est dans vos cours de Torah qu'on trouve des réponses. Maria Chadré, je vous remercie.
Merci à vous.
Je rappellerai que nous, en tant que Radio Shalom, donc vous, moi, toute l'équipe de la station appelle à participer à ce rassemblement qui aura lieu dimanche à 14h, Parvis des Droits de l'Homme, place du Trocadéro. Maria Chadré, Shabbat Shalom. Bonsoir à vous.
Shabbat Shalom. À bientôt.
Bonjour à tous, on se retrouve pour notre chronique Une histoire pour Shabbat. Il y a un jour un homme qui malheureusement était très pauvre et devait essayer de trouver comment nourrir sa famille. Il habitait en Eretz Israël, le seul moyen c'était d'aller travailler au Yémen. Alors il décide, avec le consentement de sa femme et de ses enfants, de partir pour essayer de travailler. Il part et au bout de 2-3 ans, il arrive à réunir une belle somme, prêt de 100 000 dinarim. Alors, il décide de les envoyer à sa femme et ses enfants, qui meurent de faim, mais il veut aussi rester une ou deux années de plus pour récolter encore plus d'argent. Donc le seul moyen, c'était de faire parvenir l'argent directement en Israël. Mais à l'époque, il n'y avait pas énormément de relations entre le Yémen et Israël, donc il fallait trouver un émissaire qui fasse l'aller-retour. Il cherche, et un beau jour, il entend parler d'un juif qui, effectivement, partait du Yémen pour aller en Israël. Alors, il alla le voir et le supplia de transporter l'argent pour emmener à sa famille. Le juif accepta, mais à une condition. Il voulait prendre 10% des économies. L'homme lui dit, écoutez, ma famille meurt de faim. 10%, c'est une sacrée somme. On ne peut pas s'arranger. Il dit non, hors de question. Il dit, alors regardez, on va faire mieux. Je vais vous écrire un contrat qui stipule un tel fils d'un tel donne la somme de 100 000 dinars à un tel fils d'un tel afin qu'il donne ce qu'il désire à ma femme et mes enfants. Comme ça, vous faites ce que vous voulez avec l'argent. Le juif est tout content. Il prend le shtar, il prend le contrat, il prend les dinarim, il part pour son voyage en Eretz Israël. Il arrive en Israël, il voit la femme, il dit bonjour, regardez, je suis envoyé par votre mari, je viens vous donner de l'argent, voilà un dinar. Il dit comment ça un dinar? Mon mari vous a envoyé depuis le Yémen pour nous donner un dinar, je pensais qu'il faisait de belles affaires. Il dit oui, mais il m'a écrit un contrat où il y a marqué « Il donnera ce qu'il désire à ma femme et mes enfants. » Et donc, je vous donne que un dinar et moi je garde tout le reste. La femme, elle est dépitée. Elle meurt de faim avec ses enfants depuis plusieurs mois, plusieurs années. Donc, tout de suite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir un rave, le rave de la ville, pour lui demander conseil, pour savoir quoi faire. Le rave, il regarde le contrat, il analyse, il dit « Donc, qu'on soit bien clair. » Vous, vous avez gardé 99 999 dinarim. Il a dit oui. Et vous avez donné un dinar à la femme. Il a dit oui. Donc vous désiriez garder 99 999 dinarim. Il a dit oui. Il dit alors dans ce cas-là, vous échangez. Vous prenez un dinar et vous donnez tout le reste à la femme. Il dit comment ça? Il y a marqué dans le shtar, il donnera ce qu'il désire à ma femme et à mes enfants. Il a dit oui. Il donnera ce qu'il désire. Et étant donné que vous désirez 99 999 dinarim, alors vous allez donner ce que vous désirez, donc cette somme-là, à la femme et aux enfants. On voit dans la paracha de la semaine, la paracha Taharemot, que si on suit les commandements d'Akadosh Baruch Hu, on sera béni. Et il y a marqué après, si on ne les suit pas, on sera maudit. Je dis bon, c'est un petit peu évident. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de ça? On apprend grâce à cette histoire que si à chaque fois que notre Yetzer Hara il nous pousse à faire des choses, des mauvaises choses, Razeshem, comme là, retirer tout l'argent à cette femme, il pensait qu'il avait le droit grâce au contrat, mais au final non. Mais si tout l'engouement qu'on a lorsqu'on fait des mauvaises choses, lorsque le Yetzer Hara nous pousse à faire des choses, on l'utilisait, on prenait ce potentiel pour faire des mitzvot, alors là, Kadosh Baruch Hu nous bénira. C'est pour ça que tous nos attraits, tous nos désirs, toutes nos pulsions qui nous amènent souvent à Chas v'Shalom faire des mauvaises choses, il faut utiliser tout ça pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu et c'est là où on méritera Bezrat Hashem de grandes récompenses. Shabbat Shalom à tous.